Dirait Tanger, la Diocélite revient toujours à ses premiers amours avec la culture avec un grand C. À Beaune, où nous avons installé les quartiers d'hiver pour cette fin d'année 2021, je me trouve dans un endroit assez magique, assez merveilleux, avec des photos de gens pas très connus, un dénommé Sergio Leone, un dénommé Charlie Chaplin et surtout un dénommé Claude Lelouch. Et je suis avec
Rémi Bergman.
Rémi Bergman, que faites-vous dans la vie ?
Oh, beaucoup de choses, mais je suis à Beaune pour m'occuper des ateliers du cinéma pour Claude Lelouch.
Alors, quand j'entends Rémi Bergman, j'entends Rémi, j'entends aussi Bergman. Ah, Bergman, ça me dit quelque chose dans le domaine du cinéma ?
Oui, j'ai coutume de dire, juste pour un problème d'orthographe, que c'est comme mon oncle et ma tante Bergman, parce que souvent, on me colle deux N, et ce qui me permet de dire aussi pourquoi tant de N.
Oui.
Et donc, pour ceux qui connaissent Ingrid ou Ingmar, il n'y a qu'un seul N.
Donc, ça n'est pas la même famille.
Oh, c'est un nom ultra commun en Suède. Donc non, ça n'est pas la même famille.
Bon, on part à la genèse. Alors, comme ça, déjà dans le ventre de maman, vous étiez en train de faire du cinéma.
Absolument pas. J'avais trois objectifs dans la vie, mais un peu plus tard qu'on est encore dans le ventre de ma maman, j'ai émis le souhait d'être chef d'orchestre, mais je ne connais pas la musique. Je voulais être dresseur d'éléphants et heureusement, vu la façon dont les éléphants se dressent, je n'aurais pas été très fier. Je voulais être réalisateur et je travaille dans le cinéma.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de rentrer dans le cinéma ? C'est une rencontre ? C'est un film ?
Bon, c'est certainement beaucoup de choses, mais je pense qu'à la base, c'était beaucoup plus futile que ça. Je pense qu'il y avait le côté paillette, il y avait tout un tas de choses. Celui qui attire tout le monde, celui dont je suis très très vite revenu.
Alors, j'ai une question pas très diplomate à vous poser maintenant. Le cinéma, à l'époque, c'était comment ?
Ah, c'était bien. C'était super. J'ai passé ma vie à entendre, mais comme tout le monde, que le cinéma était en crise. Et je n'ai jamais croisé que des gens qui m'ont dit « c'était mieux avant ». Mais ça n'est pas propre au cinéma, donc c'est pareil pour tout le monde.
Le cinéma, vous allez dire que je suis un peu... Enfin bon, je n'ai pas dit le mot. Le cinéma, c'est Lyon, quoi. C'est Frères Lumière.
Ah, mais non, pas du tout. Puisque nous considérons aux ateliers du cinéma que l'inventeur du cinéma, c'est Jules-Étienne Marais, qui est un natif de Beaune. Les frères Lumière, qui sont donc lyonnais, eux ont vu la possibilité d'industrialiser et de faire des choses avec le cinéma. Alors que ce pauvre Marais, qui était médecin, se cantonnait à une utilisation scientifique.
Et c'est lui qui a mis en place, comment est-ce qu'on appelle le premier, c'est un gyroscope, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut l'appeler.
Le travail de Marais, c'était la chronophotographie avec un système qui ressemblait un petit peu à un fusil de chasse pour viser le sujet. Et il a eu deux modèles, un avec des plaques de verre et puis le deuxième qu'il a pu fabriquer grâce à George Eastman, le fondateur de Kodak.
D'accord. Là-dessus, attention, il n'y a pas de discussion. Mais bon, les Frères Lumière sont passés derrière. Le cinéma, c'est toute une histoire sur Beaune.
Ah, c'est une histoire parce qu'à Beaune, et si nous sommes à Beaune, c'est parce que c'est l'endroit où se sont installées pour la première fois les rencontres de l'ARP. L'ARP, c'est une association des auteurs, réalisateurs, producteurs, les gens qui sont tout à la fois auteurs, réalisateurs et producteurs. Et qui ont tenu pendant de longues années leur réunion annuelle à Beaune. Donc ça, c'est une des raisons, c'est la raison pour laquelle les ateliers du cinéma sont installés à Beaune.
Alors c'est important, vous avez souvent répété les ateliers du cinéma. Moi, au début, quand je suis arrivé, c'est vrai que j'ai dit c'est une école, mais ce n'est pas une école. En fait, il y a une spécificité aux ateliers du cinéma. On a des apprentis, on a des gens qui viennent. Ce n'est pas une école traditionnelle.
Non, alors j'ai plutôt tendance maintenant à dire que nous offrons à nos apprentis, puisque nous sommes dans un atelier, nous avons des apprentis. Si nous étions dans une école, nous aurions des écoliers, des étudiants. Nous leur offrons la possibilité d'une résidence, une sorte de Villa Médicis du cinéma, voilà, sans prétention aucune.
Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que, ben, en fait, si je le dis, ça va déclencher une révolution. Tout le monde va téléphoner. C'est gratuit.
Oui, absolument. Ça fait partie des souhaits de Claude Lelouch d'offrir une formation dont la sélection ne soit pas basée sur un cursus scolaire précédent, scolaire ou universitaire, ne soit pas basée sur les capacités financières de la famille ou de la personne elle-même. Et donc, nous recevons nos apprentis sur un concours. Et leur venue à Beaune, bien évidemment, leur séjour, ils l'assument, mais tout ce que nous mettons à leur disposition, c'est gracieux.
C'est vieux. Ah bon? Il y a un mécène, il y a quelqu'un qui est derrière là, qui permet d'obtenir ce type de conditions financières?
Alors, il y en a un. Tout premier, et j'ai déjà dit son nom, il s'appelle Claude Lelouch.
Claude Lelouch, ça me dit quelque chose. C'est un cinéaste, je crois.
C'est un jeune cinéaste
Oui.
qui prépare la sortie de son 50e long métrage.
Quand est-ce qu'il a commencé? Je pourrais même pas dire. C'est dans les années 70 qu'il a commencé, je crois.
Ah non, je pense plutôt qu'il a commencé dans les années 60 et même peut-être un petit peu plus tôt, avec son service militaire au cinéma des armées.
Waouh, 50e film. Et avec des films un peu connus quand même.
À quelques-uns. Alors, je ne suis pas du tout un géographe pour Claude, mais je pense que tout le monde retiendra les titres, évidemment, d'Un homme et une femme. Évidemment d'un itinéraire d'un enfant gâté, évidemment l'aventure c'est l'aventure, et puis tout un tas de films. Je crois que tout le monde a dans la tête le titre d'un film de Claude Lelouch et s'en souvient.
Bonjour.
Ah oui, mais alors celle-là, moi je peux pas la faire.
Alors pourquoi je dis bonjour? Parce que quand on rentre, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a la caméra du film Itinéraire d'un enfant gâté et le bonjour de Belmondo est fabuleux.
Ah mais ça fait partie du génie, évidemment, d'un Belmondo, évidemment d'un Richard Anconina, mais de celui qui a provoqué cette rencontre, qui a écrit ce texte et qui a imaginé cette situation, c'est quand même aussi le travail de Claude Lelouch, c'est surtout son travail.
Il est originaire de Beaune?
Ah, pas du tout, il est parisien, il est parisien, il est très attaché à la Normandie, mais il trouve ici un climat de sérénité qui lui permet aussi de travailler, d'avancer sur ses projets, tout en rencontrant avec nos apprentis la jeunesse qui apporte un sang nouveau et une envie nouvelle.
Alors, vous m'avez fait faire la visite guidée. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a vu plusieurs salles. Et à chaque fois, vous avez insisté sur un point, c'est les apprentis qui rentrent ici ne sont pas très nombreux déjà.
Non, non, non. Alors, juste pour expliquer, la production de Claude Lelouch s'appelle Les Films 13, et je pense que ça a un rapport. Nous avons 13 apprentis.
Et 13, parce que c'est Marseille. J'ai fait exprès là.
Ah non, 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 ça n'a rien à voir avec Marseille. Moi, je viens de Marseille, mais c'est pas moi qui ai choisi.
Alors justement, ce qui est fascinant, c'est que les 13 apprentis qui rentrent, ils vont être complètement impliqués dans tout ce qui est, je ne veux pas dire écriture, mais tout ce qui est réalisation du film. Ils vont tout voir. Ils vont être présents sur du concret. C'est pas de l'abstrait, là.
C'est le principe des ateliers, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas véritablement de professeurs, mais les professeurs, ce sont les techniciens en activité qu'ils vont rencontrer, charge à eux de se créer leur propre réseau et de donner aux uns et aux autres l'envie de retravailler ensemble. Et le principe, effectivement, de leur séjour aux ateliers, c'est d'assister au tournage d'un long métrage, mais pas seulement au tournage, avec tout ce qui est la préparation. Quand nous partons en repérage, nous les emmenons. Quand nous tournons le film, évidemment, ils sont avec nous, ils travaillent et à ce moment-là, ils sont rémunérés. Mais ils assistent également à toute la post-production du film. Globalement, leur cursus commence avec la lecture du scénario dans une version quasi définitive et se termine avec l'avant-première du film sur lequel ils ont travaillé.
On est à quelques heures de 2022. Si je vous demandais une définition du cinéma aujourd'hui, parce que ça a évolué.
Je ne sais pas s'il faut trouver une définition nouvelle. Je pense qu'il faut plutôt parler d'une maladie, mais comme elle n'est pas propre au cinéma, on ne va pas juste se regarder le nombril avec le cinéma. Il y a un problème actuellement que l'humanité doit arriver à résoudre et il faut juste espérer en sortir le plus vite possible pour repartir sur de bonnes bases et avoir à nouveau un cinéma flamboyant.
C'est pas la même chose de regarder sur un écran de télévision et sur un grand écran. Hier soir, il y avait les 10 commandements. On n'a pas la même symbolique, on n'a pas les mêmes ressentis, on n'a pas les mêmes émotions.
D'abord, la salle de cinéma, c'est une immersion grâce à la taille de l'écran. Et ça, c'est irremplaçable, surtout quand il s'agit d'un film à grand spectacle comme les 10 commandements. Mais le plus important dans la salle, c'est que la salle vit et que les bruits, la présence des spectateurs à côté de soi potentialise les effets qu'un film peut avoir sur nous. Et c'est très important de pouvoir voir le film en salle et pas dans son salon aussi confortablement et aussi techniquement bien installé que l'on puisse être.
J'aimais bien un genre de petit exemple qu'on avait donné sur le théâtre. Un spectacle au théâtre n'est jamais le même, c'est toujours un numéro zéro. Mais un spectacle sans public, c'est pas un spectacle.
Définitivement, le spectateur, qu'il manifeste sa joie, sa bonne humeur, sa tristesse avec les pièces de théâtre ou les films qui lui sont proposés, même si on ne l'entend pas véritablement, on le ressent. Il y a un ressenti qui est quasiment inexplicable. Et évidemment que sur scène au théâtre, les comédiens ressentent complètement la présence d'un public qu'ils ne peuvent pas voir.
On va finir sur une prospective. Il y a une révolution qui va se dérouler en 2022, puisque Canal+ a annoncé qu'il sortirait du Festival de Cannes. C'est France Télévisions qui va arriver. Est-ce que ça veut dire aussi, avec l'apparition et même le développement de Netflix, c'est-à-dire que tout change, tout évolue?
Tout change certainement. La question serait de savoir, mais je ne sais pas qui a la réponse. On a tous des idées, et on aimerait que ce soit des certitudes. Tout change. Est-ce que c'est pour le meilleur? Personnellement, je suis loin de partager cette idée-là. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que si tout change, tout rechangera. Et si nous partons dans une mauvaise direction, il faut en tout cas, il faut l'espérer, toujours possible de revenir en arrière ou de recréer quelque chose qui soit plus en accord avec nos attentes, nos besoins et notre culture.
Vous avez toujours été dans le cinéma.
Oui.
Et comment vous allez faire? Parce que bientôt vous allez partir en vacances, si j'ai bien compris. Enfin, en vacances.
Vous faites référence à mon âge? Il n'est pas question d'abandonner le bateau. Claude Lelouch m'a confié la direction de cet endroit, les ateliers du cinéma, pour perpétuer une idée qu'il a et qu'il est, de mon point de vue également, très important de pouvoir faire vivre. Donc, oui, l'année prochaine sera une année de plus, mais une année de plus aux ateliers.
Parfait, mais écoutez, moi je vous remercie parce que c'est vraiment assez intéressant de découvrir ce lieu. Ah oui, pourquoi il n'est pas assez connu? parce qu'il mériterait d'être connu.
Alors, je ne sais pas, on pourra dire que nous avons mal communiqué, que peut-être, au fond de nous-mêmes, on se dit que devenir plus gros, devenir plus connu, risquerait de
Là,
changer les choses, et de façon pas forcément agréable. Maintenant, nous avons eu, ou nous avons toujours, une apprentie qui vient de Chine, nous avons eu une apprentie qui venait, du Brésil. Nous avons surtout des apprentis qui viennent évidemment de toute la France. Nous en avons eu de Suisse. Et nous attendons les résultats du prochain concours avec impatience pour savoir qui nous fera voyager où.
je vous remercie.
Merci.